Monsieur le Président, de me donner la parole. Comme c'est la première fois que j'interviens, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour le talent et l'autorité bienveillante avec laquelle vous présidez cette réunion, remercier de son travail le secrétariat et féliciter la Thaïlande qui préside le comité sur la coopération et l'assistance pour avoir conduit les travaux toute l'année et introduit ce point de l'ordre du jour. La coopération et l'assistance, c'est un pilier de notre convention parce que lorsque les États adhèrent à la convention, ils n'adhèrent pas seulement à des principes humanitaires, ils intègrent une communauté solidaire et amicale dans laquelle il peut y avoir de l'appui, de l'assistance, des échanges d'expériences qui nous permettent d'avancer davantage. C'est la raison pour laquelle la France est très attachée à ce point de l'ordre du jour et à l'importance de la coopération et l'assistance et à laquelle nous avons consacré ces dernières années, à peu près chaque année, entre 11 et 13 millions d'euros pour l'ensemble du monde et récemment sur les projets en portefeuille pour l'Ukraine, environ sur les deux prochains exercices, 15 millions d'euros de projets, liste qui peut être actualisée. En Ukraine, par exemple, nous avons appuyé le Danish Refugee Council, Allo Trust, le service des situations d'urgence, à la fois en formation et en don d'équipement. En matière de formation, nous avons en particulier insisté sur la formation au risque des mines subaquatiques ou sous-marines, puisqu'il y a en Ukraine beaucoup de canaux, de rivières qui sont infestés de mines antipersonnelles ou d'engins explosifs de guerre après la terrible agression russe dont ce pays a été victime. Dans le reste du monde, pour environ 12 millions d'euros, nous aidons une dizaine de pays en particulier, notamment le Tchad, l'Irak, où nous soutenons l'UNMAS, Handicap International, l'ONG AMAP Humanitaire. Nous avons également soutenu, et nous continuerons à le faire, l'Azerbaïdjan, qui est confronté à une pollution très importante dans les territoires du Karabakh et qui s'acquitte de sa tâche avec l'ANAMA, avec compétence et grand sérieux. Nous soutenons également le déminage en Syrie, au Liban. Et nous appuyons également un plan de déminage de la Mauritanie dans la région de Nouadhibou, mené par les autorités nationales de Mauritanie, que je félicite de leur prise en main de ce dossier avec l'ONG AMAP Humanitaire. Je voudrais à ce stade faire trois remarques. La première, c'est qu'une chose est très importante, c'est la formation pour le renforcement des capacités nationales et c'est une constante de la coopération française. En particulier, nous soutenons le centre du CPADD du Bénin et l'école régionale de déminage humanitaire du Liban, qui est plus récente, mais qui prend toute sa place sur la scène et qui d'ailleurs pourrait prochainement, sur un financement français, financer des mineurs ukrainiens également. La deuxième remarque, c'est que même si les moyens ont augmenté en matière de déminage, nous devons toujours avoir à l'esprit de rechercher la meilleure efficacité. La France, lorsqu'elle présidait l'an dernier le Mine Action Support Group, a demandé au GICHT de conduire une étude sur les coûts du déminage et sur l'efficacité opérationnelle dans la lutte contre les mines, étude qui est actuellement disponible en français et en anglais sur le site du GICHD et qui apporte énormément d'informations utiles sur les coûts de déminage selon les pays, l'intérêt de faire des études non techniques ou des études techniques, et afin de maximiser l'efficacité de chaque euros ou dollars ou autres monnaies employées dans le déminage et d'avoir, même quand les ressources sont contraintes, la plus grande efficacité. Enfin, c'est un thème que la France a toujours abordé, c'est que nous avons besoin de ne pas oublier les pays à contamination limitée, les pays où les conflits sont anciens. Et il est regrettable, lorsqu'on lit par exemple le Landmine Monitor, de consacrer qu'un grand nombre de pays ne reçoit aucune aide. que beaucoup de pays qui pourraient terminer leur dépollution ne le font pas faute de moyens, alors même que la contamination est limitée, que nous pourrions retirer ces pays de la liste et peut-être à Siem Reap l'an prochain les déclarer libres de mines. Nous voyons dans le cas de l'Ukraine comme des sommes très considérables peuvent être consacrées par nos pays face à des crises comme on l'a vu en Irak, en Afghanistan, en Syrie. Mais la concentration des moyens sur quelques pays nous fait oublier, dans une enceinte internationale comme celle-là, où nous devons exprimer notre solidarité avec l'ensemble de la planète et avec l'ensemble des pays, nous avons un devoir moral de ne pas oublier les pays qui ont besoin de peu de moyens, mais qui ne sont plus forcément nécessairement, parce que ce sont des conflits anciens, au centre de l'actualité. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment que nous renforcions le concept, d'ailleurs qui est une idée allemande au départ, Monsieur le Président, de coalition de pays, et que nous soyons capables de mettre la même énergie que pour les grands pays, pour les petits, notamment pour la Mauritanie, le Tchad, le Sénégal, le Sri Lanka, le Zimbabwe, le Liban aussi, d'autant que dans ces pays, de nouvelles autorités se mettent en place, il y a une appropriation des politiques de déminage et on le remarque aussi, et c'est même les organisations non gouvernementales le constatent, ce sont souvent, comme on le dit du Zimbabwe ou du Liban, des programmes de très grande qualité où nous savons que l'argent est bien utilisé et que les résultats sont visibles. Et donc je lance donc un appel à ce que les donneurs, malgré les priorités urgentes de la guerre, l'émotion que suscite la situation dramatique que vivent certains grands pays, soient capables de mettre la même énergie à mobiliser des moyens pour ces pays que nous pourrions vite déclarer libres de mines. Je vous remercie, Monsieur le Président.